Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous ouvrons ce matin la parole de Dieu au chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre. Et nous lisons au verset 20. On va lire du verset 20 au verset 22. 2 Pierre 2, 20. Voilà. Soyons attentifs. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Paul fait référence à un proverbe, et il dit un proverbe vrai, car la première partie de ce proverbe, vous la retrouvez dans le livre des proverbes, et vous remarquerez que les gens, quand ils donnent un proverbe souvent, ils trouvent leur référence dans la Bible et on attribue à des personnes un certain proverbe, mais c'est déjà dans la Bible. La Bible est pleine de ces vérités et le Seigneur insiste par la bouche de Paul, de Pierre, pour nous rappeler ce matin que la condition de celui qui a suivi le commandement de Dieu, goûté à la justice et qui s'est arrêté, s'est laissé rattraper par ces choses et s'est laissé vaincre, sa condition est pire que s'il n'avait jamais connu la justice. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a été éclairé et qui abandonne la voie du Seigneur. Alors, je crois que ce matin, comprenons que le but du message, c'est de se poser la question et d'avoir ce désir profond dans notre cœur. Je ne veux me laisser ni rattraper, ni reprendre par ce que j'ai abandonné, par ce que j'ai laissé. Et si je dis les choses de cette manière, c'est que forcément, dans la Bible, nous voyons qu'on peut se laisser rattraper et reprendre par les choses que l'on a abandonnées, et notre condition devient alors pire que celle dans laquelle le Seigneur est venu nous trouver. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons pu échapper vraiment à beaucoup de choses, notamment nous échappons à la condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous échappons à la perdition, nous pouvons proclamer que nous sommes sauvés. Nous échappons au pouvoir du péché, parce qu'en Christ nous trouvons la force de vaincre le mal, de vaincre le péché. Nous échappons également à l'esprit du monde, qui agit autour de nous et qui est non pas l'esprit de Dieu, mais vraiment l'esprit du monde qui entraîne les gens et les berce d'illusions. Et puis, nous échappons à toutes sortes de dangers que nous aurions certainement connus et vécus si la grâce du Seigneur n'avait été notre partage et ne nous avait pas permis d'échapper à toutes ces choses. Cependant, nous devons veiller à ne pas, après avoir échappé à ces choses, nous laisser rattraper par ces choses. nous laisser récupérer par ces choses. Et c'est ce que le texte nous dit. Nous allons essayer de comprendre d'une manière assez précise ce que je suis en train de vous dire. Et la première des choses que je souligne, c'est que nous pouvons nous laisser rattraper par l'esprit religieux. Alors pour cela, nous allons lire dans le livre des Galates et trouver dans les Galates le chapitre 5 et garder votre Bible ouverte dans les Galates. Chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Voilà donc un premier verset. Les Galates étaient retombés sous la loi après avoir connu la grâce de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 7 de ce chapitre 5. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il n'est pas suffisant de courir vite et de bien courir. Encore faut-il veiller à nous maintenir réellement dans la communion avec Dieu et à ne pas nous laisser rattraper par les choses que nous avons délaissées. Dans l'histoire d'Israël, bien, l'esprit religieux, légaliste, consistait à appliquer les ordonnances de Dieu, à mettre en pratique la loi de Moïse, mais ce n'était plus le cœur, c'était une habitude, un rituel. Ils voyaient seulement la forme, mais ils n'en avaient pas le fond. Et lorsqu'ils ont connu la grâce de Dieu, ils ont compris que les sacrifices qu'ils offraient à Dieu, entre autres, étaient inutiles, puisque le sacrifice suprême avait été offert. Jésus avait donné sa vie sur la croix du calvaire et il n'avait rien à offrir au Seigneur de cette manière-là. Or, le fait de vouloir retourner à ces pratiques montre qu'ils avaient perdu la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que lorsque, en retournant à ces pratiques religieuses, après avoir bien commencé avec le Seigneur, ce peuple, eh bien, sortait carrément de la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que ceux qui, après avoir connu la grâce de Dieu, sont tombés, il n'y a plus de sacrifice pour eux. C'est aux Hébreux qu'il s'adresse premièrement pour nous montrer qu'après avoir connu la grâce de Dieu, si on sacrifie à nouveau des animaux, bien, c'est qu'on ne croit pas que le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant. C'est beaucoup plus subtil pour nous au niveau de la religion, puisque nous sommes sortis sous bon, beaucoup de la religion, mais vous avez des religions où chaque dimanche, par exemple, eh bien, ils renouvellent le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand dans certaines cérémonies, on peut le dire à la messe, par exemple, eh bien, c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus, comme si le sacrifice de Jésus avait besoin d'être renouvelé. Et donc, il y a cette doctrine de la transsubstantiation où on croit qu'au moment de prendre l'hostie, on prend le corps du Seigneur. Nous avons pris le pain et le vin, et c'était du pain et c'était aussi du vin. Mais derrière ces emblèmes, il y a cette vérité. Nous avons besoin de quelque chose de matériel pour nous souvenir, et Dieu a voulu que nos esprits soient marqués. On n'a pas mangé le corps du Seigneur, on n'a pas bu le sang du Seigneur, on a accepté de nous nourrir du Seigneur. C'est ce que nous faisons, j'espère, chaque jour, en prenant ce qui est à lui, en le faisant nôtre, et en permettant à l'Esprit de Dieu de nous nourrir, car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera ou vous le communiquera, nous dit la parole de Dieu. Donc, nous devons comprendre que nous sommes sortis de certains rites religieux et que nous pouvons, après avoir connu la grâce de Dieu, bien retomber dans ces rites. C'est beaucoup plus subtil parce que quelquefois, nous ne comprenons pas qu'entre l'esprit religieux et la grâce, il y a une frontière qui est infime. Je vais être plus clair. Que ce soit dans l'esprit religieux ou quand on vit dans la grâce, il y a une ressemblance. Dans les deux, il y a la prière. Dans les deux, on fréquente des réunions. Dans les deux, on pratique des bonnes œuvres. Mais la différence réside dans le fait que, sous la grâce, on ne s'appuie que sur l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix du calvaire pour être sauvé. Mais dans la religion, on s'appuie sur nous, on s'appuie sur nos bonnes œuvres, on s'appuie sur nos mérites. Sous la grâce, c'est Dieu qui est glorifié, et quand on marche comme des religieux, alors c'est l'homme qui est glorifié. Mais ici, en l'occurrence, c'était vraiment un retour en arrière. Regardez au chapitre 4, au verset 9, toujours des Galates, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore ? » Nous devons comprendre que pour le peuple juif, il y avait un manque. Ils étaient tellement pris par le faste religieux, par les cérémonies, etc., que c'était quelque chose de très important pour eux. Et finalement, ils en venaient à ce que je disais il y a peu de temps, ils en venaient à adorer leur culte plutôt qu'adorer le Seigneur. Et nous, au niveau de notre pratique, de notre engagement avec le Seigneur, devons veiller à ne pas tomber dans ces travers, parce que nous pouvons être très bien notés, cotés par les autres. Ce sont de bons chrétiens, ils prient, ils viennent aux réunions, ils accomplissent de bonnes œuvres, c'est formidable, etc. Mais notre cœur est-il vraiment engagé? Au centre de notre vie, y a-t-il vraiment la présence du Seigneur? On va lire toujours dans les Galates, au chapitre 5, verset 4. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » C'est quand même fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à la justification par ce qu'il accomplit, par ce qu'il fait, il est déchu de la grâce. Bon, c'est quand même pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Et puis regardez ce qu'il est dit au chapitre 3, le verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» C'est-à-dire que ces chrétiens-là, convertis, avaient commencé par l'esprit, et maintenant, ils devenaient charnels, non pas qu'ils commettaient le péché de la chair, mais ils devenaient charnels dans le fait que ce qu'ils accomplissaient était vraiment quelque chose d'extérieur, de superficiel, sans engagement. On peut venir prendre la Sainte Seine, comme on l'a fait ce matin, sans que notre cœur soit vraiment au Seigneur, sans qu'il ne soit vraiment au centre. Et l'apôtre Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si je peux me permettre, il dit « Vous êtes tellement, ou êtes-vous tellement dépourvus de sens ?» Vous êtes devenus fous, quoi. C'est ce que Paul dit. Comment pouvez-vous tomber aussi facilement dans ce piège-là ? Bien sûr, il y a une solution à tout cela, c'est ce que nous trouvons dans le chapitre 6 des Galates, qui est le verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Moi, je crois qu'il y a ici l'indication suprême pour que nous comprenions la solution, c'est de remettre la croix au centre de notre vie, au centre de notre message, au centre de nos actions, et de pouvoir nous souvenir qu'à la croix du calvaire, Jésus s'est dépouillé pour que nous soyons revêtus, et que lorsque l'on marche avec le Seigneur, on fait les choses pour Dieu, eh bien nous voulons nous dépouiller, nous voulons le mettre à l'honneur, c'est lui que nous devons glorifier, nous devons revenir à la croix pour régler nos situations, mettre de l'ordre dans notre vie, pas chercher des excuses, des combinaisons. On ne cherche pas à rapiécer un vieux vêtement qui est usé. On a connu par la grâce de Dieu ce qu'est d'être revêtu d'un vêtement neuf. Nous voulons garder ce vêtement neuf par la grâce de Dieu, être de nouvelles créatures au premier jour de notre conversion, mais aussi après 25 ans ou 40 ans de conversion, nous voulons permettre au Seigneur de nous renouveler. Alors, il faut bien que l'on comprenne qu'on a peut-être montré du doigt certaines religions en disant « mais c'est la religion, le rite a pris les rites ont pris la place de la vraie vie, etc. » On a montré du doigt, on a peut-être même condamné, que Dieu nous garde de condamner les autres, condamnons-nous nous-mêmes, parce qu'en fait, nous pouvons très bien être des chrétiens évangéliques pentecôtisants, et être de parfaits religieux, être des pharisiens, et malheureusement, c'est ce que l'on voit de plus en plus, c'est comme une contagion, et que Dieu nous garde de tomber dans ces pièges pour que notre culte soit toujours un culte qui jaillit d'un cœur qui est renouvelé dans la présence du Seigneur et dans la communion avec Dieu. Ce matin, c'est ce que nous voulons. Maintenant, nous pouvons également être rattrapé par la culture, par les coutumes. Il faut en dire un mot quand même ce matin. On va lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 2. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens. Quoi qu'il est bon de comprendre qu'Abraham a répondu à un appel que Dieu lui a adressé. Il habitait à Ur, en Chaldée, c'est l'Irak aujourd'hui, et là, il y avait toutes sortes de pratiques, empreintes de magie, des pratiques païennes. Et quand Dieu lui a parlé, quand Dieu s'est révélé, il lui a demandé de quitter tout cela, et de quitter sa patrie, de quitter son pays, de quitter même sa famille, de s'éloigner. Ce n'est pas, bien sûr, ce que le Seigneur indique dans le sens où l'Évangile ne nous pousse pas à séparer les familles, à disloquer les familles, mais il y a une séparation qui s'impose lorsqu'on se convertit, on abandonne les pratiques qui étaient les nôtres, quelles que soient les pratiques. Abraham avait reçu une promesse, et au chapitre 13 de la Genèse, nous trouvons cette promesse, qu'il aurait une postérité. Peut-être que c'est intéressant de lire au chapitre 13, on va lire le verset 16. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » C'est extraordinaire comme promesse. Il y a un hic. Il y avait un problème. Le problème, c'était quoi? bien, le problème, c'est que Abraham reçoit la promesse qu'il aurait une postérité, mais il est déjà avancé en âge, et en plus, ou de surcroît, sa femme, qui s'appelait à l'époque Sarah, et qui est devenue Sarah, était stérile. Donc, non seulement elle est stérile, mais maintenant, ils sont vieux tous les deux. Donc, c'est impossible que cette promesse puisse s'accomplir. Donc, si je lis au chapitre 16 de la Genèse, puis au verset 2, « Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et nous savons qu'elle a donné naissance à un garçon, s'est appelé Ismaël, et je crois qu'il est bon de comprendre que Dieu appelle Abraham à quitter sa famille, sa patrie, à quitter son pays et à entrer dans la marche selon la foi. Or, il y a un obstacle insurmontable qui fait qu'à un moment donné, bien, il y a l'amorce dans son cœur et dans le cœur de sa femme de revenir aux coutumes. Ça peut aujourd'hui nous choquer de lire ce que nous venons de lire, mais il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, lorsque le couple n'arrivait pas à avoir d'enfants parce que la femme était stérile, alors l'homme pouvait aller vers la première servante qui enfantait sur les genoux ensuite de cette femme et le petit qui naissait devenait l'héritier. Alors ça nous choque aujourd'hui, mais c'était la coutume de l'époque. Or, le couple ici est rattrapé par la culture de leurs origines, et même si cette pratique peut choquer, elle est conforme à la culture qui était la culture de l'époque. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quelquefois, ce qui se passe, c'est que nous sortons de milieux différents, que ce soit les Européens, les Africains, les Asiatiques. Nous avons des Indiens, des cultures, nous sommes marqués par des cultures, par des coutumes, et ces choses ont tellement d'importance parce que c'est à la mise en pratique de ces cultures, de cette façon de vivre, que souvent nous sommes jugés de l'extérieur. Or, quand on donne notre vie au Seigneur, eh bien, on abandonne tout notre passé, toute notre vie passée, on ne devient pas amnésique, mais on met un terme et on comprend que la culture, ce n'est pas l'Évangile. Et que l'Évangile est le même pour les Italiens, les Africains, les Gitans, on a tous la même base, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a l'Évangile qui s'adapte à telle culture, l'Évangile s'adapte à telle autre culture. Souvent, ces cultures sont en désaccord, en opposition même avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Par exemple, je vais prendre un truc grossier pour que vous compreniez, mais il n'y avait pas le Pax à l'époque, mais aujourd'hui ça fait partie de la culture. Donc si ça fait partie de la culture, on se dit que c'est légal. Mais ce qui est légal n'est pas forcément approuvé par Dieu. Et là, dans le cas d'Abraham et Sarah, il faut que vous sachiez ce que la Bible nous montre, c'est qu'ils n'ont plus placé leur foi dans le Seigneur, et parce qu'ils n'ont plus placé leur foi dans le Seigneur, ils ont placé leur foi dans la culture de l'époque. Et à cause de ce problème, qui est un problème opposé à toutes les règles établies dans la parole de Dieu et que l'on retrouve plus tard, mais les principes existent avant même que la loi n'ait été écrite, bien, ont eu des conséquences gravissimes. Pourquoi ? Parce qu'il est né un enfant, Ismaël. Plus tard, quand ils ont ouvert les yeux, Abraham s'est ressaisi, mais Dieu a donné un fils. Le miracle s'est accompli. La grand-mère, enfin la mémé plus exactement, ou la personne âgée, a donné naissance à un bébé. C'était un miracle. Il fallait s'attendre à un miracle, et surtout, je crois que la naissance vraiment du peuple d'Israël, qui devait être le peuple phare pour les nations, est issue d'un miracle de Dieu. De la même manière que nous aussi, nous sommes le résultat d'un miracle de Dieu. Mais Dieu a accordé ce qu'il avait promis, et malheureusement, il y a eu inimitié entre les deux, et cette inimitié, elle dure encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on écoute les discours, les uns comme les autres se recommandent d'Abraham, mais les uns ont une position et les autres en ont une autre. Toujours est-il que la seule chose possible, c'est de trouver la réconciliation dans la personne de Jésus-Christ, car la postérité d'Abraham qui offre la bénédiction à toutes les nations, c'est Jésus-Christ, et une seule, pas les postérités, mais la postérité. Nous ne sommes pas bénis parce que l'on fait partie d'un peuple, nous sommes bénis parce que nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, et à partir de là, nous devenons membres du corps de Christ, et nous faisons partie du peuple de Dieu. Je ne suis plus un étranger, je ne suis plus une personne du dehors, je suis une personne de la maison de Dieu, je fais partie de la maison de Dieu, je suis concitoyen des saints, je peux bénir aujourd'hui le Seigneur parce que mon Dieu est mon roi, il est mon Seigneur, il est mon maître, mais il est aussi mon sauveur, mon conseiller, mon guide. En lui, j'ai tout pleinement. C'est pour cette raison que lorsque on me pose la question, je peux traiter le problème qu'il y a aujourd'hui, avoir des positions sur ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'immigration et autres. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune différence entre les personnes. Nous avons tous un même cœur, et ce cœur a besoin d'être brisé au pied de la croix pour être sauvé. Nous avons besoin de passer par la repentance. Mais vous savez, que ce soit quelques-uns qui ont la peau de telle couleur ou de telle autre couleur, quand il y a une blessure, on a mal de la même manière, on a les mêmes émotions, même si on est formaté d'une manière différente, on est les mêmes, parce qu'il n'y a sur la terre une seule espèce qui peut devenir semblable à Dieu, c'est l'espèce humaine, et nous ne devons pas faire de différence entre les uns et les autres, et c'est pour cette raison que toujours, toujours, et encore aujourd'hui, j'ouvre les bras et j'aime les églises où il y a des couleurs, où il y a des origines différentes, et mes frères et sœurs, la culture doit être mise de côté et faisons attention parce que quelquefois pour faire plaisir aux familles, on se laisse avoir et on obéit à la culture au lieu d'obéir au Seigneur. Or, mes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia.
Amen.
Je sais que venant de ses origines italiennes du sud sicilienne, c'était quand même assez particulier cette culture-là. Et les chrétiens qui sont convertis, ces hommes, ces femmes, et certains qui faisaient partie même de la mafia à un certain moment, et bien quand ils se sont convertis, sont devenus de nouvelles créations. Ils étaient très religieux dans leur apparence, avec toutes sortes de coutumes religieuses et de pratiques occultes, mais ils ont abandonné toutes ces choses, et gloire soit rendue à Dieu. Ils ont été certainement jugés, menacés, persécutés, et ils sont restés fermes dans leur position. Par exemple, dans le domaine de la mort, quand un être cher venait à mourir, alors les personnes s'habillaient vraiment en noir et il y avait des choses assez particulières et ça durait des années, et comme cela s'était affiché partout. Aujourd'hui, les chrétiens ont une autre perspective et montrent une autre voie, la voie de l'espérance, à savoir que la mort, ce n'est pas la fin de tout, c'est juste le passage de cette vie à l'autre vie où le Seigneur nous attend. Ce n'est pas une autre vie, puisque c'est la vie éternelle qui va se poursuivre, mais qui va connaître tout son sens quand nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Alléluia. Je crois qu'il est important que nous réalisions ce matin que nous ne devons pas nous laisser rattraper par quoi que ce soit. Nous sommes en Jésus-Christ. Alors, j'avais bien d'autres exemples, mais je vais les laisser de côté. On peut se poser la question, comment ne pas nous laisser rattraper et reprendre par le diable? Pour cela, il faut que l'on connaisse ses plans. Et ces plans nous sont exposés dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, après avoir connu le baptême et après avoir été revêtu du Saint-Esprit, il a été poussé, envoyé par le Saint-Esprit dans le désert, où il a été tenté pendant 40 jours et particulièrement le dernier jour. Mais la Bible nous dit qu'après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La Bible nous dit que nous devons rester en Christ et ne pas donner accès au diable. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques nous explique « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de nous. » La possibilité d'être rattrapé par notre péché qui a été lavé dans le sang de Jésus est exprimée dans le cas, entre autres, de Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Bien, dans l'histoire de Caïn et Abel, dans la Genèse, le chapitre 4 et le verset 7, le Seigneur dit à Caïn qu'il n'est pas content. Il est déçu parce que Dieu a approuvé l'offrande de son frère, mais pas la sienne. D'ailleurs, on peut ouvrir une parenthèse. Pourquoi ? Parce que Abel, lui, a offert un agneau en sacrifice à Dieu. Et il a démontré à ce moment-là qu'il avait tout compris, que c'était une vie pour une vie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Il n'a pas donné au Seigneur le fruit de son travail, contrairement à Caïn, qui lui était cultivateur et qui a pris le meilleur des fruits et l'a offert au Seigneur. Mais c'était le résultat de son travail. C'est là toute la différence entre la grâce et la religion. Nous pouvons offrir au Seigneur le fruit de notre travail, de notre engagement, de nos efforts, et nous attendre à être justifiés par tout ce que l'on fait, ou alors nous reposer sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Ce que Dieu agrée, ce qu'il approuve, c'est le sacrifice. Et le sacrifice de cet agneau a fait penser à Dieu, au sacrifice de Jésus-Christ qui s'est accompli plus tard. Mais maintenant, tout est accompli. Mais comme il était en train de maugréer, qu'il n'était pas content, le Seigneur lui dit certainement, « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, écoutez bien, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ça veut dire que nous avons là une possibilité d'être rattrapés par les péchés du passé et retomber dans ce de quoi le Seigneur nous a sortis, tout simplement en ne veillant pas et en ne dominant pas le péché qui se couche, il est tapis à la porte et ses désirs se portent vers nous. Le péché nous désire au point qu'il veut nous rattraper, mais nous, on le laisse à la porte, on domine sur lui. C'est toute la problématique que l'on rencontre ensuite quand certains ont connu la grâce de Dieu et dérapent, ils retombent dans ce qu'ils ont abandonné. On voit qu'il y a dans leur vie une domination des choses qu'ils avaient laissées hier. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas entendu l'exhortation du Seigneur. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu t'attaches à moi, ma parole, tu vas relever la tête. Le péché est à la porte. Il n'est pas loin. Il est à la porte. Ses désirs se portent sur toi. Mais toi, tu dois dominer. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné, à savoir qu'il nous a donné la possibilité de dominer sur le péché, sans quoi nous serions malheureux. Parce que nous aurions reçu le pardon des péchés, mais pas la force de le dominer. Alors nous serions dans la religion, vous savez, dans la religion, c'est ce qui se passe, c'est qu'on revient sans cesse pour demander pardon des choses que l'on continue sans cesse à pratiquer. Et je prends toujours cet exemple pour l'exprimer, c'est l'exemple du père Martin qui va à l'église le dimanche et qui dit « Seigneur, je te demande pardon pour les 7 charrettes de foin que j'ai volées au Durand pendant la semaine. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, et il se reprend, tu peux en compter 10 parce qu'aujourd'hui, je vais en voler 3 autres. » Et ça, c'est l'esprit religieux. C'est qu'on demande pardon à Dieu pour se donner bonne conscience sans vraiment que ça change quoi que ce soit. Si ce matin, vous avez demandé pardon au Seigneur avec comme motivation de recommencer ce que vous avez laissé ce matin, eh bien, c'est ça, l'esprit religieux. Fuyez l'impudicité. Alors, je terminerai en disant ceci, c'est que le péché nous rattrape si nous ne veillons pas. Nous courons, et nous devons bien courir. Par contre, nous pouvons nous laisser rattraper par notre Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Regardez le psaume 139, verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » C'est comme s'il disait, tu finis toujours par nous rattraper, Seigneur. Mais c'est à nous de choisir. C'est pour cette raison que Jérémie disait dans le chapitre 20 et au verset 7, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Moi, je crois que c'est la bonne des déclarations. « Seigneur, tu m'as persuadé. Éternel, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Et c'est ce que nous voulons, que le Seigneur nous persuade, nous voulons nous laisser persuader par lui, et nous voulons nous laisser vaincre par lui. Seigneur, c'est toi qui domines, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur de ma vie. Alors, je prends maintenant les ailes de l'aurore, je veux m'envoler dans ta présence, je veux vivre une vie de triomphe, et je veux vraiment comprendre que c'est dans la foi que se vit cette vie-là. Je veux abandonner certaines de mes coutumes, de mes pratiques qui n'ont rien à voir avec le message de l'Évangile. Et je veux te servir avec un cœur neuf, un cœur vrai, un cœur authentique. À toi et à toi seul, soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te louons et te bénissons de tout notre cœur ce matin. Parce que l'expérience que tu nous as permis de faire avec toi est une expérience glorieuse et merveilleuse. Oh Seigneur, quelle joie, quel bonheur de savoir que nos péchés sont pardonnés, d'avoir l'assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, d'avoir été persuadé que en toi nous avons la vie éternelle. Seigneur, nous ne voulons pas perdre le bénéfice de cette grâce, et surtout, nous ne voulons pas laisser à l'habitude, à la routine de s'installer et de nous empêcher de nous épanouir comme nous devrions nous épanouir. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs de les ramener, et de nous ramener tous sur le point central de l'Évangile, à la croix du calvaire, et que là, Seigneur, puissions découvrir comme tout à nouveau ton amour et que par amour, nous puissions faire le choix d'abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire et de faire ta volonté jour après jour. Te le demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre glorieux Sauveur. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur, que cela nous permette de réfléchir et de prendre les belles et les bonnes initiatives pour servir notre Maître. Alléluia.